Chapitre 25. Frank Churchill revint de Londres et s'y fit attendre son père pour le dîner, on n'en sut rien à Hartfield, car Madame Weston désirait trop qu'il fût dans les bonnes grâces de M. Woodhouse pour découvrir aucune des imperfections du jeune homme, s'il était en son pouvoir de les cacher. Il revint de Londres avec ses cheveux bien coupés. Il se moquait lui-même de ce caprice, de la meilleure grâce du monde, mais sans paraître honteux de ce qu'il avait fait. Il n'avait aucune raison de garder des cheveux trop longs pour qu'on n'aperçût aucune marque de confusion sur sa figure. Il ne regrettait nullement l'argent que cette course et cette opération lui avaient coûté. Il était toujours le même, gai, joyeux, et reparaissait avec cet air d'assurance qui ne le quittait jamais. Et, après l'avoir vu, Emma fit le monologue suivant. « J'ignore si la chose doit être ainsi. » Mais certainement, des folies faites avec imprudence par un homme d'esprit cessent d'être des folies. Des méchancetés sont toujours des méchancetés, mais des folies ne sont pas toujours des folies. Cela dépend du caractère des gens qui le commettent. Monsieur Knightley n'est pas un écervelé. S'il l'était, il aurait agi bien différemment, ou il s'en serait fait gloire, ou bien il en aurait eu honte. Il aurait montré l'ostentation d'un fat ou la timidité d'un homme qui n'ose pas défendre ses caprices. Non, je ne crois pas que Frank Churchill soit ni vain ni fat. Le mardi suivant amènerait l'espoir bien fondé de le revoir et, pour un temps beaucoup plus long que par le passé, de juger de ses manières et, par conséquent, de sa conduite envers elle, de prévoir le temps où il serait nécessaire de paraître plus réservé et de faire enfin ses observations sur les remarques que pourraient faire sur eux ceux qui les verraient ensemble pour la première fois. Elle résolut de bien s'amuser, quoique la scène dût se passer dans la maison de M. Cole, et qu'elle se souvint parfaitement que, parmi les fautes commises par M. Elton, même lorsqu'il était le plus en faveur avec elle, aucune ne lui avait tant déplu que le penchant qu'il avait de dîner chez M. Cole. Madame Goddard et Madame Betts étant aux ordres de M. Woodhouse, elle était parfaitement tranquille sur son compte. Et son dernier devoir, avant de quitter la maison, fut d'aller les saluer affectueusement après leur dîner. Et tandis que son père s'extasiait sur l'élégance et la beauté de sa parure, elle distribuait à ces deux dames de grosses tranches de gâteaux, de bons verres de vin, pour leur faire une espèce d'amende de ce que la crainte de nuire à leur santé son père n'avait pas osé leur offrir. Elle avait ordonné pour elle un excellent et copieux dîner. Elle eût désiré savoir si elles en avaient profité. Sa voiture était précédée par une autre lorsqu'elle se rendait chez M. Cole. Elle fut très satisfaite d'apprendre que c'était celle de M. Knightley. Car M. Knightley, n'ayant pas de chevaux, peu d'argent en caisse, une santé florissante, étant extrêmement actif et indépendant, était trop porté, suivant l'opinion d'Emma, à se transporter d'un lieu à un autre à pied. Elle pensait qu'il ne se servait pas de sa voiture aussi souvent que le propriétaire de Donwell Abbey devait le faire. Elle eut l'occasion de lui en faire son compliment, car il s'arrêta pour lui donner la main lorsqu'elle descendit de voiture. « Ah, dit-elle, vous arrivez enfin comme vous devriez toujours faire, c'est-à-dire comme un gentilhomme. Je suis enchantée de vous voir. » Il la remercia, observant qu'il était heureux qu'ils étaient arrivés ensemble. Car si nous nous étions rencontrés dans la salle d'assemblée, je doute beaucoup que vous m'ayez trouvé plus l'air d'un homme comme il faut qu'à l'ordinaire. À ma mine, vous n'auriez pas distingué de quelle manière je suis arrivé. Certainement, je l'aurais distingué. Il y a toujours un air d'embarras lorsque les gens voyagent d'une manière au-dessous de leurs conditions que l'on s'en aperçoit sur le champ. Vous croyez trancher du grand, mais avec vous, c'est une bravade. Vous prenez un air d'indifférence, mais chez vous, de l'affectation. Je m'en suis toujours aperçu toutes les fois que vous êtes arrivé d'une manière indécente, passez-moi le terme. Aujourd'hui, vous n'avez rien à craindre. On ne supposera pas que vous puissiez être honteux. Vous n'avez pas besoin d'essayer de paraître plus grand que les autres. « Maintenant, je serai extrêmement flatté d'entrer avec vous dans la salle d'assemblée. »« Quelle folle, dit-il, mais d'un air enjoué. » Emma eut autant de sujets de se louer de la compagnie que de M. Knightley. Elle fut reçue avec des égards qui ne pouvaient manquer de lui plaire. on lui rendit tous les honneurs possibles. Lorsque les Weston arrivèrent, elle fut comblée des plus grands témoignages d'amitié par l'une et d'admiration par l'autre. Le fils s'approcha d'elle avec empressement et lui témoigna d'une manière gracieuse la satisfaction qu'il avait de la rencontrer. Et, à dîner, Emma le vit assis à côté d'elle et eut quelques soupçons qu'il ne devait pas cette place au pur hasard. L'assemblée était nombreuse. Il y avait une famille entière, étrangère à Highbury, famille très respectable qui habitait la campagne et que M. Cole avait l'honneur de connaître. Outre cela, on y avait invité tous les jeunes gens de la famille de M. Cox, homme de loi de l'endroit. Des demoiselles d'un rang inférieur, telles que Mlle Betts, Fairfax et Smith, devaient venir passer la soirée. Il y avait déjà tant de monde à table qu'il fut impossible d'avoir une conversation générale. Et tandis que les uns s'entretenaient de politique, que d'autres parlaient de M. Elton, Emma ne fit attention qu'aux plaisanteries de son voisin. Le premier son de voix éloigné, qui lui sembla mériter qu'elle s'en occupât, fut celui qui porta à ses oreilles le nom de Jeanne Fairfax. Il paraissait que Mme Cole racontait d'elle quelque chose d'intéressant. Elle prêta l'oreille et trouva qu'elle ne perdait pas son temps. Son imagination, cette partie essentielle d'Emma, reçut un surcroît de plaisir. Mme Cole disait qu'elle s'était rendue chez Mme Betts et qu'en entrant dans la chambre, elle avait été frappée à la vue d'un pianoforte. Un très bel instrument, pas grand mais carré, le fond de l'histoire, la fin du dialogue, qui contenait de la surprise, des demandes et des congratulations d'une part, et des explications de la part de Mlle Betts, furent que le pianoforte était arrivé la veille de chez Broadwood, au grand étonnement de la tante et de la nièce, qui ne s'y attendaient nullement. D'abord, Mlle Betts dit que Jeanne elle-même ne pouvait deviner qui en avait fait l'envoi, mais qu'ensuite elle s'était accordée à penser que ce piano ne pouvait venir que d'après les ordres de M. le colonel Campbell. « Il est impossible de faire une supposition plus juste, » ajouta Mme Cole, « et j'ai été surprise qu'on en ait pu douter un instant. Mais il paraît que Jeanne a reçu une lettre de lui il y a peu de temps et il ne disait pas un mot du piano. Elle le connaît sans doute mieux que personne. Mais je ne pourrais considérer ce silence comme une raison de ne pas lui faire ce présent. Il avait probablement envie de la surprendre. » Plusieurs personnes furent de l'avis de Mme Cole, et tous ceux qui parlèrent sur le même sujet furent également convaincus que le colonel avait envoyé le piano. Tous se réjouirent de ce que Jeanne Fairfax avait reçu un si beau présent. D'autres aussi, s'ils avaient parlé, aurait permis à Emma de penser d'une autre manière. Ils écoutèrent Mme Cole. « Je déclare que depuis bien longtemps, je n'ai rien appris avec plus de plaisir et une plus entière satisfaction. J'ai toujours été, l'on ne peut pas plus fâcher, que Jeanne Fairfax, qui joue comme un ange, n'ait pas d'instrument. C'est une honte, considérant surtout combien nous avons de maisons où les plus beaux clavecins et pianos sont absolument inutiles. » C'est à la vérité nous donner des soufflets à nous-mêmes. Comme je le disais hier à M. Cole, je suis honteuse de regarder notre nouveau grand pianoforte dans la salle de compagnie, moi qui ne connais pas une seule note, et nos petites filles qui ne font que commencer et qui, peut-être, n'apprendront jamais rien. Et que la pauvre Jeanne Fairfax, qui est grande musicienne, n'ait pas un seul instrument, pas même une misérable épinette pour s'amuser. Je le disais encore hier à M. Cole, et il était de mon avis. Mais il aime tant la musique qu'il n'a pas pu s'empêcher de faire cet achat, espérant que quelques-unes de nos voisines auraient la complaisance de temps en temps d'en faire un meilleur usage que nous. C'est, en vérité, la seule raison qu'il est engagé à l'acheter. Autrement, nous devrions être honteux d'avoir fait une pareille acquisition. Nous avons l'espoir que Mlle Woodhouse voudra bien nous faire le plaisir de l'essayer ce soir. » Mlle Woodhouse consentit avec grâce et, voyant qu'il n'y avait plus rien à gagner avec Mme Cole, elle se retourna vers Frank Churchill. « Pourquoi souriez-vous ? » lui dit-elle. « Et vous ? » ?»« Moi, je suppose que c'est du plaisir que j'ai que le colonel Campbell soit riche et généreux. C'est un très beau présent. »« Très beau. » Je m'étonne qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. Peut-être que Mademoiselle Fairfax n'est jamais restée si longtemps au pays. Ou qu'il ne lui ait pas permis de se servir de son piano, qui doit être enfermé dans sa maison de Londres. Celui-là est très grand, et il aura sans doute pensé qu'aucune des chambres de Madame Bess ne pourrait le recevoir. Vous pouvez dire tout ce qu'il vous plaira, mais vous avez l'air de penser comme moi sur le sujet en question. Je n'en sais rien. Je crois, au contraire, que vous me faites l'honneur de m'accorder plus de perspicacité que je n'en ai. Je souris parce que je vous vois sourire. J'aurai très probablement les mêmes soupçons que vous. Mais, quant à présent, je ne vois pas trop sur quoi il pourrait tomber. Si ce n'est pas le colonel Campbell qui fait ce présent, qui pensez-vous que ce puisse être ? Ne pensez-vous pas que Madame Dixon... Madame Dixon ? Eh oui, en vérité, je ne songeais pas à Madame Dixon. Elle doit savoir aussi bien que son père combien un piano serait agréable à Mademoiselle Fairfax. Et peut-être que la manière de faire ce présent, l'air de mystère qu'on y a mis, dans l'espoir de la surprise qui en résulterait, doivent plutôt être attribués à une jeune femme qu'à un homme avancé en âge. J'oserais assurer que c'est Madame Dixon. Je vous ai bien dit que vos soupçons guideraient les miens. S'il en est ainsi, il faut les étendre et y comprendre M. Dixon. M. Dixon, fort bien. Oui, je comprends aisément que ce présent doit venir de M. et de Mme Dixon. Nous parlions l'autre jour, si vous vous en souvenez, de l'admiration qu'avait M. Dixon pour le jeu de Mademoiselle Fairfax. Oui, et ce que vous m'en avez dit a confirmé une idée qui m'était venue. Mon intention n'est pas de soupçonner de mauvaises intentions à M. Dixon ou à Mademoiselle Fairfax, mais je me permets de penser qu'après avoir fait des propositions à son ami, M. Dixon a eu le malheur de devenir amoureux de Mademoiselle Fairfax, ou bien il a cru s'apercevoir qu'elle avait de l'affection pour lui. On pourrait former là-dessus 1000 conjectures différentes et ne pas rencontrer la vérité. Mais je suis assurée qu'il doit y avoir une raison bien forte pour qu'elle ait préféré venir à Highbury à suivre les Campbell en Irlande. Ici, elle mène une vie misérable, pleine de privations. Là, au contraire, elle aurait eu toutes sortes de jouissances. Quant à profiter du bénéfice de l'air natal, ce ne peut être qu'une excuse. Elle aurait pu passer en été, mais quel bien peut faire l'air natal dans les mois de janvier, février et mars ? Un bon feu, une bonne voiture, serait bien plus utile à une personne d'une faible santé, surtout à elle, que l'air natal. Je ne vous invite pas à adopter tous mes soupçons, quoique vous ayez si noblement professé de le faire, mais je vous dis honnêtement ceux qui me sont passés par la tête. Sur ma parole, ils ont une grande apparence de probabilité. La préférence que donne M. Dixon à Mademoiselle Fairfax sur ses talents en musique paraît décider la question. Ensuite, il lui a sauvé la vie. En avez-vous entendu parler ? C'était pendant une partie sur l'eau, et par un accident quelconque, elle allait être précipitée dans la mer. Il la retint. J'étais de cette partie. Vous en étiez ? Fort bien. Mais il paraît que vous n'avez rien observé, car il semble que les idées dont je vous ai parlé sont nouvelles pour vous. Je pense que si j'y avais été, j'aurais fait quelques découvertes. Oh, je n'en doute nullement. Mais moi, pauvre innocent, je n'ai vu que les faits, c'est-à-dire que Mademoiselle Fairfax a manqué tomber dans la mer et que M. Dixon l'a retenue. Tout cela se passa dans un clin d'œil. Et quoique l'alarme fût générale, car ce ne fut que plus d'une bonne demi-heure après que nous fûmes entièrement remis de la frayeur que cet accident nous avait causée, on eût pu peut-être remarquer que quelqu'un était plus particulièrement affecté que les autres. Mais personne ne fit cette observation. Je ne veux pas dire néanmoins que, si vous eussiez été présente, vous ne vous fussiez aperçue de quelque chose. Ici, la conversation fut interrompue. Ils furent obligés de partager avec les autres convives le désagréable intervalle qui sépare le premier service du second. Mais lorsque les mets furent placés, tous les plats symétriquement arrangés et qu'on eut commencé à servir, Emma dit « L'arrivée de ce pianoforte est décisive pour moi, j'en voulais savoir un peu plus, mais elle m'en dit assez. Comptez que sous peu, nous apprendrons que c'est un présent de monsieur et de madame Dixon. Et si les Dixon niaient absolument de l'avoir envoyé, nous conclurons naturellement qu'il a été par les Campbell. Non, je suis persuadée que le présent ne vient pas des Campbell. Mademoiselle Jeanne Fairfax sait très bien qu'il ne vient pas de là, car elle l'aurait deviné sur le champ. Elle ne se serait pas cassé la tête pour deviner de quelle part venait ce piano, si elle eût osé croire qu'il venait d'eux. Il est possible que vous ne trouviez pas mes raisons convaincantes, mais je parierais que M. Dixon a eu la principale part dans cette affaire. En vérité, vous ne me rendez pas justice si vous croyez que je ne sois pas convaincue. Votre manière de raisonner est si juste qu'il est impossible de ne pas s'y rendre. D'abord, tant que je pouvais supposer que ce colonel Campbell était la personne qui avait fait le présent, je ne voyais en lui que la preuve de son amitié paternelle envers Mademoiselle Fairfax, et je regardais la chose comme très naturelle. Mais lorsque vous avez fait mention de Madame Dixon, j'ai senti qu'il était bien plus probable que c'était une preuve d'amitié féminine, et je ne puis maintenant avoir d'autre idée. Il était inutile d'en dire davantage, il paraissait persuadé. Ainsi, elle cessa d'en parler. On produisit d'autres sujets de conversation. Enfin, le dîner fini, le dessert fut servi. On fit venir les enfants qui furent admirés comme des prodiges, suivant la coutume. On parla beaucoup, on dit quelques bonnes choses et beaucoup de sottises, comme il est ordinaire dans les grandes assemblées. On débita des comptes de vieilles nouvelles, etc. Il n'y avait pas longtemps que les dames s'étaient rendues dans le salon lorsque celles qui n'étaient pas du dîner arrivèrent à la file. Emma épiait l'entrée de sa petite amie, et si elle ne put admirer la dignité et la grâce de son maintien, elle en fut récompensée par la douceur de ses manières, sa simplicité naturelle et sa beauté. Elle fut enchantée de voir qu'au milieu des plus violents chagrins causés par une affection mal placée, son caractère léger et enjoué lui permettait néanmoins de s'amuser. Et cependant, il n'y avait pas longtemps qu'elle avait versé un torrent de larmes, personne ne s'en serait douté, à son air gracieux et tranquille. D'être bien habillée, de voir d'autres dames élégamment mises, de s'asseoir parmi elles, sourire et ne rien dire, suffisait à son bonheur. Jeanne Fairfax avait sur toutes les autres l'avantage de la supériorité par sa figure et sa démarche. Mais Emma soupçonna qu'elle aurait été bien aise de changer de sensation avec Henriette, d'avoir eu la mortification d'aimer en vain un homme comme M. Elton, pour être délivrée du dangereux plaisir d'être aimée par le mari de son intime amie. Dans une assemblée aussi nombreuse, Emma ne crut pas nécessaire de s'approcher d'elle. Elle ne voulait pas parler du piano. Elle se croyait trop initiée dans le secret pour penser qu'il fût honnête de prétexter de la curiosité ou de l'intérêt. Cette raison la retint à sa place. Mais assez d'autres mirent le présent de ce piano sur le tapis, et elle vit la rougeur monter au visage de Jeanne, aux félicitations qu'elle recevait de toutes parts. Et elle crut qu'elle rougissait de honte en nommant son cher ami, son excellent ami, le colonel Campbell. Madame Weston, passionnée pour la musique, dans la bonté de son cœur, s'intéressa vivement au bonheur de Jeanne, à qui ce présent fournissait les moyens d'exercer ses talents et de se récréer, et Emma s'amusait beaucoup à entendre Madame Weston s'appesantir sur ce sujet, faire des questions sur les tons, les touches et les pédales, sans faire attention que la belle héroïne de cette histoire n'avait aucune envie d'en parler. Du moins, Emma croyait lire ce désir dans ses yeux. Les dames furent bientôt suivies des messieurs dans le salon et Frank Churchill fut un des premiers. En entrant, il salua, en passant, Mademoiselle Bates et sa nièce et s'avança immédiatement de l'autre côté du cercle où Mademoiselle Woodhouse était assise et resta debout jusqu'à ce qu'il y eût un siège vacant à côté d'elle. Il était, sans contredit, le plus beau cavalier dans cette assemblée et Emma devinait ce qu'un chacun penserait de cette conduite. Il paraissait s'attacher particulièrement à elle. Tout le monde devait s'en apercevoir. Elle le présenta à son amie, Mademoiselle Smith, et, en temps opportun, elle sut ce qu'ils pensaient l'un de l'autre. Il n'avait jamais vu de plus belle personne, il était enchanté de sa naïveté. Et elle ? C'était sans doute lui faire un trop grand compliment, mais elle pensait qu'il ressemblait un peu à M. Elton. Emma eut peine à retenir son indignation. Elle se contenta de lui tourner le dos sans faire aucune réponse. Des sourires d'intelligence étaient fréquents entre Emma et Frank en regardant Jeanne Fairfax. Mais ils jugèrent qu'il était prudent de ne pas parler. Il lui dit qu'il avait été très impatient de quitter la salle à manger, qu'il n'aimait pas rester longtemps après le dîner, et que, lorsqu'il le pouvait, il était toujours le premier à se lever, que son père, messieurs Knightley, Cox et Cole, étaient restés occupés à parler des affaires de la paroisse, que cependant, il s'était fort amusé tout le temps qu'il était resté avec eux. Et comme il trouvait que ces messieurs, en général, se conduisaient en gens bien nés, qu'il parla avantageusement d'Highbury et du grand nombre d'agréables familles qu'il habitait, Emma crut qu'elle avait eu trop de mépris pour son pays. Elle lui fit des questions sur les sociétés du comté d'York, l'étendue et l'espèce de voisinage d'Enscombe, et comprit par ses réponses que, quant à Enscombe, il y venait peu de monde, qu'il ne visitait que les plus grandes familles, éloignées les unes des autres, et que la plupart du temps, quand les jours de visite étaient fixés, soit pour en recevoir ou en rendre, Madame Churchill se trouvait incommodée, soit du corps ou de l'esprit. C'était une maxime à Enscombe de ne point faire de nouvelles connaissances, et quoiqu'il eût des engagements particuliers, ce n'était pas sans peine et sans employer beaucoup d'adresse qu'il pouvait en certain temps obtenir la permission de s'absenter ou d'introduire, même pour une seule nuit, une de ses connaissances dans la maison. Elle vit qu'Enscombe ne lui plaisait pas et qu'Highbury satisferait davantage un jeune homme fatigué de la solitude à laquelle il était condamné dans une grande maison. La considération dont il jouissait à Enscombe ne pouvait être douteuse. Il ne s'en vantait pas, mais il était facile de s'en apercevoir par ce qui suit. Il avoua qu'il avait souvent engagé sa tante à faire des choses qu'elle avait refusées à son mari, et comme Emma ne put s'empêcher de rire de cette confession, il ajouta qu'excepté sur deux points particuliers, il était presque certain de lui faire faire, avec le temps, tout ce qu'il voudrait. Il fit mention de l'un de ces points. C'était l'extrême envie qu'il avait de voyager. Mais elle n'a jamais voulu y consentir, quoiqu'il eût sollicité son consentement avec les plus vives instances. C'était l'année passée. Mais il observa qu'à présent, il commençait à perdre l'envie de quitter l'Angleterre. Emma s'imagina que l'autre point, dont il ne parlait pas, était de ne pas rendre à son père les devoirs qu'il lui devait. « Je viens de faire, dit-il après un instant de silence, une fatale découverte. Il y aura demain 8 jours que je suis ici, juste la moitié de mon temps. Je n'ai jamais vu les journées s'écouler si vite. Demain 8 jours. Je commence à peine à me reconnaître. J'ai fait connaissance avec Madame Weston et quelques personnes. Cette idée me tourmente. Vous commencez peut-être aussi à regretter celui que vous avez perdu à vous faire couper les cheveux. « Non, dit-il en riant, je ne le regrette nullement. Je n'ai aucun plaisir à voir mes amis, à moins que je ne me croie présentable. » Le reste des messieurs étant entrés dans le salon, Emma fut obligée de se retourner pour écouter M. Cole qui était venu la saluer. Lorsque quelques minutes après, M. Cole l'eut quittée, elle put de nouveau reprendre sa conversation avec Frank Churchill. Elle le vit qui regardait très attentivement Mlle Jeanne Fairfax qui était assise de l'autre côté du salon, vis-à-vis d'eux. « Que faites-vous là ? » lui dit-elle. Il tressaillit. « Je vous remercie de m'avoir réveillé, répliqua-t-il. Je vous demande pardon de mon impolitesse. Mais, en vérité, Mlle Fairfax est coiffée d'une manière si extraordinaire que je ne puis m'empêcher de la regarder. Je n'ai jamais rien vu de si outré. Ses boucles ! Elle a sans doute inventé cette mode. Je ne vois personne qui lui ressemble. Je vais aller lui demander si la manière d'arranger ses cheveux est le fruit de son imagination ou si c'est une nouvelle mode fraîchement arrivée d'Irlande. Irai-je ? Oui, j'y vais, et vous verrez comme elle prendra la chose et si elle change de couleur. » Il se rendit sur le champ auprès d'elle et Emma le vit lui parler. Mais comme il s'était très maladroitement mis devant Mlle Fairfax, elle ne put absolument rien découvrir. Avant qu'il revînt à sa place, il la trouva occupée par Madame Weston. « C'est le privilège des grandes assemblées, dit-elle, de pouvoir s'approcher de tout le monde et de dire tout ce qu'on veut. Ma chère Emma, il y a longtemps que je meurs d'envie de causer avec vous. Je viens de faire des découvertes et de former des plans tout à fait comme vous. Il faut que je vous en parle tandis que j'y pense. Savez-vous comment Mademoiselle Bette et sa nièce sont venues ici ?»« Comment ? Elles ont été invitées ? Est-ce qu'elles ne l'ont pas été ?» « Oh oui, certainement, mais de quelle manière ont-elles été conduites ici ?»« Mais à pied, je suppose. Comment voudriez-vous qu'elles fussent venues autrement ?»« C'est très vrai. Je pensais, il y a quelques instants, combien il serait désagréable pour Jeanne Fairfax de s'en retourner à pied par une nuit aussi froide que celle que nous avons à présent. Et en la regardant, quoiqu'elle ne m'ait jamais paru mieux qu'aujourd'hui, j'ai cru m'apercevoir qu'elle était très échauffée, et que, par conséquent, il était très probable qu'elle s'enrhumerait. Pauvre fille, je ne puis supporter cette idée, et aussitôt que M. Weston entra dans le salon et qu'il me fut possible de lui parler, je lui demandai que la voiture reconduisît ces demoiselles. Vous pouvez vous imaginer de quelle manière il accueillit cette demande. Et, muni de son approbation, je fus trouver Mademoiselle Bette sur le champ, pour la prévenir que la voiture les reconduirait chez elle avant de nous ramener à la maison, comptant la mettre parfaitement à son aise le reste de la soirée. La bonne fille, elle fut extrêmement reconnaissante, comme vous vous l'imaginez. Personne n'était aussi heureuse qu'elle. Elle me remercia mille et mille fois, ajoutant qu'elle ne nous donnerait pas cette peine, parce que la voiture de M. Knightley, qui les avait conduites chez M. Cole, devait les ramener à la maison. Je fus aussi surprise que charmée d'apprendre que M. Knightley avait eu cette attention pour ses pauvres demoiselles. Peu d'hommes en auraient fait autant. Et, d'après son habitude, j'ai pensé que c'était exprès pour elle qu'il s'était servi de sa voiture. Je soupçonne que c'était la seule raison qu'il eut de faire atteler. C'est très probable, dit Emma. Rien de plus probable. Personne n'est plus capable d'agir ainsi que M. Knightley, plus porté à faire une action véritablement utile qui prouve la bienveillance et le bon naturel. Il n'est pas galant, mais il est très humain, et la mauvaise santé de Jeanne Fairfax lui aura suggéré que de l'envoyer chercher et de la renvoyer en voiture était une action humaine. Pour un acte de bonté, sans ostentation, pour un service essentiel, je ne compterai sur qui que ce soit comme sur M. Knightley. Je savais qu'il avait des chevaux aujourd'hui, car nous sommes arrivés ensemble, j'en ai plaisanté avec lui, mais il n'a pas dit un mot qui pût trahir son secret. Très bien, dit en souriant Madame Weston, vous lui en faites sur cette action plus de grâce que moi pour le désintéressement. Car, tandis que Mademoiselle Bates parlait, une idée, de laquelle je n'ai pas encore pu me défaire, m'est passée par la tête. Plus j'y pense, plus je la crois probable. Enfin, j'ai pensé à une union entre Jeanne Fairfax et M. Knightley. Qu'en dites-vous ? Voyez la conséquence de vous tenir compagnie. M. Knightley et Jeanne Fairfax ! S'écria Emma. Ma chère, à quoi songez-vous ? M. Knightley ? M. Knightley ne se mariera jamais. Vous ne voudriez pas que le petit Henri fût privé de Don Noël ? Oh non, Henri aura certainement Don Noël. Je ne puis consentir à ce que M. Knightley se marie. Je suis persuadée que la chose n'est pas probable. Je ne puis concevoir que vous y ayez pu songer. Ma chère Emma, je vous ai dit les raisons qui m'avaient engagée à y penser. Je ne désire pas que ce mariage ait lieu. Je souhaite encore moins qu'on fasse tort au cher petit Henri. Mais ce sont les circonstances qui m'ont donné cette idée. Et si M. Knightley avait envie de se marier, vous ne supposez sans doute pas qu'il en serait empêché par rapport à Henri, un enfant de 6 ans qui ne peut avoir aucune idée du mal que cela lui ferait. Excusez-moi, je le voudrais. Il me serait insupportable de voir Henri supplanté. Monsieur Knightley se marier ? Non, je n'ai jamais eu l'idée que cela puisse arriver et je ne saurais l'adopter aujourd'hui. Et sur toutes les femmes, Jeanne Fairfax ? Cependant, il a toujours préféré, vous le savez bien. Mais l'imprudence d'un tel mariage... Je ne parle que de la probabilité et non de la prudence qu'il y aurait à en contracter un pareil. À moins que vous n'ayez de meilleures raisons que celles que vous m'avez données pour le croire possible, je n'y verrai point de probabilité. Son bon naturel, son humanité, lui ont fait commander des chevaux. D'ailleurs, vous savez qu'il a beaucoup de considération pour les bêtes, indépendamment de Jeanne Fairfax, et il saisit toujours avec plaisir l'occasion de le leur prouver. Ma très chère amie, n'allez pas vous mettre à faire des mariages, vous commencez fort mal. Jeanne Fairfax, maîtresse de l'abbaye? Oh non, non, cette idée est révoltante. Pour l'amour de lui, je ne voudrais pas qu'il fît une pareille folie. Une imprudence, si vous voulez, mais non une folie, excepté l'inégalité de la fortune et peut-être une petite différence d'âge, je ne vois rien que de sortable. Mais M. Knightley, vous dis-je, n'a pas besoin de se marier. Je suis persuadée qu'il n'en a pas la plus petite idée, n'allez pas la lui mettre dans la tête. Pourquoi se marierait-il? Il est aussi heureux que possible comme garçon, avec sa ferme, ses moutons, sa bibliothèque et les affaires de sa paroisse à gouverner. Ensuite, il aime beaucoup les enfants de son frère. Ainsi, pour remplir son temps et son cœur, il n'a pas besoin de se marier. Ma chère Emma, tant qu'il pensera comme vous dites, à la bonne heure. Mais s'il est véritablement amoureux de Jeanne Fairfax. Parole vide de sens. Il se soucie fort peu de Jeanne Fairfax. Quant à l'aimer, il n'en est rien. Il ferait tout au monde pour l'obliger, ainsi que sa famille, mais... À la bonne heure, dit Madame Weston en riant, mais le plus grand bien qu'il pût leur faire serait de donner à Jeanne une maison aussi respectable que Donwell. S'il leur rendait ce bon service, c'en serait un bien mauvais pour lui, ce serait une alliance honteuse et qui le dégraderait. Comment voudrait-il appartenir à Mademoiselle Bates? La voir continuellement à l'abbaye, pour le remercier très humblement de la bonté qu'il aurait eue d'épouser Jeanne? Si bon, si obligeant! À la vérité, il avait toujours été pour elle un voisin si généreux. Se rabattre ensuite, au milieu d'une sentence, sur les vieux jupons de sa mère. Il n'était cependant pas si vieux, ces jupons. Elle devait remercier Dieu qu'ils dureraient encore longtemps, car ils étaient encore forts. N'avez-vous pas honte, Emma, de vous moquer d'elle? Vous me divertissez contre ma conscience, et sur ma parole, je ne crois pas que Mademoiselle Bates eût causé beaucoup d'embarras à M. Knightley. Il ne se fâche pas de peu de choses. Elle pourrait parler tant qu'elle voudrait, et s'il avait envie de répliquer, il parlerait plus haut qu'elle, il étoufferait sa voix. Mais la question n'est pas de savoir si ce serait une mauvaise alliance pour lui, mais s'il la désire comme je le crois. Je lui ai entendu faire un éloge pompeux de Jeanne Fairfax, vous en avez souvent été témoin vous-même. L'intérêt qu'il lui porte, l'anxiété qu'il a sur sa santé, l'inquiétude qu'il paraît avoir sur sa situation future, tout cela me prouve en faveur de mon opinion. Je l'ai entendu s'exprimer avec chaleur sur tout cela. De plus, il admire tant ses talents en musique, la beauté de sa voix, que je lui ai entendu dire plusieurs fois qu'il ne se lasserait jamais de l'entendre chanter et toucher du piano. Oh, j'allais oublier une autre idée qui m'a passé par la tête. Ce pianoforte qui lui a été envoyé par on ne sait qui, quoique tout le monde convienne que c'est un présent des Campbell, n'en serait-ce pas plutôt un de M. Knightley? Je ne puis m'empêcher de le croire, quand bien même il ne serait pas amoureux d'elle. Alors, ce ne pourrait être une preuve de l'amour que vous prétendez qu'il lui porte. Quant à moi, je ne crois pas du tout que ce présent puisse venir de lui, car M. Knightley ne fait rien mystérieusement. Il a plusieurs fois répété devant moi ses lamentations sur ce que Jeanne n'avait aucun instrument, et cela beaucoup plus souvent que je l'aurais pu croire d'un homme comme lui. Fort bien, mais si son intention eût été de lui en donner un, il lui eût dit. Il peut avoir des scrupules de délicatesse, ma chère Emma. Je ne puis m'ôter de l'idée que ce ne soit lui. J'ai observé qu'il a gardé un profond silence lorsque Madame Cole nous racontait, à dîner, l'histoire de ce piano. Vous concevez une idée et vous vous laissez entraîner par elle. Comme vous m'avez souvent reproché ce défaut, permettez-moi de prendre ma revanche. Je ne vois en lui aucun signe d'attachement. Je ne crois pas qu'il ait donné le piano, et je ne serais convaincue de l'intention que vous lui prêtez de vouloir épouser Mademoiselle Jeanne Fairfax que lorsque ce mariage aura été célébré. » Elles disputèrent encore pendant quelque temps sur cette matière, et Emma commençait à gagner du terrain sur son amie, dont le caractère était de céder, quand, par le remuement de l'assemblée, elles virent qu'on avait fini de prendre du thé et qu'on avait mis le piano en ordre. Au même instant, M. Cole s'approcha pour prier Mademoiselle Woodhouse de leur faire l'honneur de l'essayer. Frank Churchill, qu'elle avait perdu de vue dans la chaleur de sa conversation avec Madame Weston, excepté au moment qu'elle l'aperçut assise à côté de Mademoiselle Fairfax, suivit M. Cole pour joindre ses sollicitations aux siennes. Et comme en tout, Emma aimait à être la première, elle accepta de bonne grâce. Elle connaissait parfaitement l'étendue de ses talents, et elle était trop habile pour essayer d'aller au-delà de ses forces. Elle ne manquait ni de goût ni d'assurance pour jouer les morceaux de musique à la mode, et elle s'accompagnait fort bien de la voix. Un autre accompagnement vint la surprendre agréablement. Ce fut Frank Churchill, dont la voix peu fournie mais correcte fit la seconde partie. La chanson finie, il lui demanda pardon de la liberté qu'il avait prise, sur quoi ils se firent les compliments d'usage. Il fut accusé d'avoir une très belle voix, de connaître la musique à fond, ce qu'il eut l'effronterie de nier, assurant, au contraire, qu'il n'avait pas de voix et qu'il connaissait à peine les notes. Ils chantèrent encore une fois ensemble, et Emma céda la place à Mademoiselle Fairfax, dont les talents, supérieurs pour le chant et pour l'exécution, lui étaient bien connus. Elle s'assit à quelque distance derrière la foule qui faisait cercle autour de l'instrument pour l'écouter, ne pouvant pas trop se rendre compte des sensations mixtes qu'elle éprouvait. Frank Churchill l'accompagna encore. Ils avaient chanté ensemble une ou deux fois à Weymouth. Mais la vue de M. Knightley, au nombre des attentifs, partagea l'attention d'Emma. Elle se mit à repasser dans son esprit les soupçons de Madame Weston, occupation dont elle était divertie de temps en temps par la douceur des voix unies qui frappaient son oreille. Les objections qu'elle s'était mises en tête contre la possibilité d'un mariage entre M. Knightley et Mademoiselle Fairfax subsistaient dans toute leur force. Elle n'y prévoyait que des malheurs. Les espérances de M. Jean Knightley se trouvaient renversées et, par conséquent, celles d'Isabelle. Ce serait faire un tort irréparable aux enfants. Cette union causerait un changement mortifiant et une perte considérable à tout le monde, surtout à son père, dont les habitudes seraient dérangées. Et, quant à elle, il lui serait impossible de supporter l'idée de voir Jeanne Fairfax à l'abbaye de Donwell. Une dame Knightley, à qui tout le monde serait obligé de donner le pas. Non, M. Knightley ne doit jamais se marier. Il faut que le petit Henri hérite de Donwell. Un moment après, M. Knightley se retourna et, la voyant seule, vint s'asseoir à côté d'elle. Ils ne s'entretinrent d'abord que du jeu et du chant qu'ils venaient d'entendre. Il en parla avec admiration, mais non pas avec cette vive chaleur qui avait frappé Madame Weston. Pour l'éprouver, elle commença par le louer de sa bonté d'envoyer sa voiture chercher Mademoiselle Bette et sa nièce. Et quoique sa réponse fût laconique et indiqua qu'il était inutile d'en dire davantage, elle s'imagina que cette manière de répondre démontrait simplement qu'il n'aimait pas qu'on lui parlât de sa bienveillance. « J'ai beaucoup de regrets, dit-elle, que dans des occasions pareilles, je n'ose pas me servir plus souvent de notre voiture. Ce n'est pas que je manque de bonne volonté, mais vous savez que mon père croirait qu'il serait impossible d'exiger de Jacques qu'il attelât pour si peu de choses. » C'est une autre question tout à fait différente, répliqua-t-il, mais vous devez l'avoir souvent désiré, j'en suis très persuadé. Et il se mit à sourire, de manière à la convaincre que cette conviction lui faisait plaisir. Cela lui donna l'assurance de faire un pas de plus. Ce présent des Campbell, dit-elle, ce pianoforte, a dû faire autant de plaisir qu'il a été gracieusement donné. « Oui, répliqua-t-il, sans la plus petite hésitation et sans témoigner le moindre embarras. Mais ils auraient mieux fait de la prévenir. Les surprises sont des choses futiles. Le plaisir n'en est pas réchauffé, et il en résulte souvent des inconvénients considérables. J'aurais cru que le colonel Campbell avait plus de jugement. » Dès ce moment, Emma aurait prêté serment que M. Knightley n'était pour rien dans l'envoi du piano. Mais de savoir s'il n'existait pas d'attachement particulier, de préférences parfaitement établies, lui furent un peu plus difficiles à découvrir. Vers la fin de la seconde cantate, la voix de Jeanne s'altéra. « Cela suffit, dit-il, quand elle eut fini, et, pensant tout haut, « vous avez assez chanté pour une soirée. À présent, restez tranquille. » On en demanda cependant encore une autre. « Encore une, cela ne peut fatiguer Mademoiselle Fairfax. Ce sera la dernière. » Et on entendit dire à Frank Churchill, « Je pense que vous pourriez chanter ceci sans effort. Votre partie est aisée, la seconde seule est un peu forte. » M. Knightley se mit en colère. « Ce fat, dit-il avec indignation, ne songe qu'à faire admirer sa voix. Cela ne doit pas être. » Et, touchant Mademoiselle Bates, qui, dans ce moment, passait devant lui, « Mademoiselle Bates, s'écria-t-il, avez-vous perdu l'esprit de laisser votre nièce s'enrouer comme elle fait à force de chanter? Allez près d'elle et faites-la cesser. » Mademoiselle Bates était tellement inquiète sur le compte de Jeanne qu'elle se donna à peine le temps de remercier M. Knightley. Elle vola vers sa nièce et mit fin au chant. Ainsi finit le concert. Car, excepté Mademoiselle Woodhouse et Jeanne Fairfax, il n'y avait pas de musicienne dans toutes les dames ou demoiselles qui composaient l'assemblée. Mais 5 minutes après, la proposition de danser fut faite, on ne sait trop par qui, mais fut appuyée par M. et Mme Cole avec tant d'efficacité que les meubles furent bientôt rangés pour donner de la place aux danseurs. Madame Weston, excellente pour les contredanses, se mit au piano, commença à jouer une irrésistible valse, et Frank Churchill vint, de la manière la plus galante, demander la main d'Emma et la conduisit à la place d'honneur. Tandis qu'ils attendaient que les jeunes gens se fussent arrangés, Emma trouva le moyen, malgré les compliments qu'on lui adressait de toutes parts sur sa voix, ses grands talents sur le piano, de regarder ce qu'était devenu M. Knightley. Elle comptait beaucoup sur l'efficacité des observations qu'elle allait faire pour vérifier la solidité des soupçons de Madame Weston. En général, il ne dansait jamais. S'il s'empressait à s'offrir à Mademoiselle Fairfax, on pourrait en augurer quelque chose. Elle ne vit aucune apparence, car il causait tranquillement avec Madame Cole, sans faire attention à ce qui se passait autour de lui. Quelqu'un vint s'offrir à Mademoiselle Fairfax. Et il continua sa conversation avec Madame Cole. Emma fut guérie de ses alarmes sur Henri. Ses intérêts ne couraient aucun risque, et elle mena la danse avec joie et vivacité. On ne put former que 5 couples, ce qui rendit la danse plus vive et beaucoup plus agréable. Et elle trouva un partenaire digne d'elle. Il s'attirait tous les regards et méritait bien cette distinction de la part des spectateurs. Malheureusement, on ne leur accorda que 2 danses. Il se faisait tard et Mademoiselle Bates, impatiente de s'en retourner à la maison à cause de sa mère, demandait à se retirer. On fit néanmoins quelques efforts pour obtenir une 3e danse, mais ce fut en vain. On remercia Madame Weston d'un air triste et on se sépara. On a peut-être bien fait, dit Frank Churchill en reconduisant Emma à sa voiture. J'aurais été obligé de prier Mademoiselle Jeanne Fairfax, et sa manière languissante de danser n'aurait pu me convenir après avoir eu l'honneur d'être votre partenaire. Emma ne se repentit pas de sa condescendance envers l'école. Cette visite lui causa le lendemain des souvenirs agréables, et tout ce qu'elle avait perdu en ne restant pas à la maison enveloppée de dignité solitaire fut amplement récompensé par la splendeur attachée à la popularité. L'école devait être dans l'enchantement, ces honnêtes gens méritaient ce qu'on avait fait pour les rendre heureux, et Emma laissait derrière elle un souvenir qui ne s'effacerait pas de longtemps. Le bonheur parfait, même en idée, n'est pas commun, et sur 2 points essentiels, Emma n'était point du tout à son aise. Elle n'était pas sûre de n'avoir pas manqué aux égards qu'une femme doit à une autre, en manifestant les soupçons qu'elle avait sur l'attachement existant dans le cœur de Jeanne Fairfax pour Frank Churchill. Ces soupçons étaient peut-être injustes, mais elle en avait eu une si forte idée qu'il lui avait échappé d'en faire part à Frank, et la soumission qu'il montra flattait tellement sa pénétration qu'elle avait de la difficulté à décider si elle aurait mieux fait de parler que de se taire. L'autre circonstance qui lui causait des regrets avait également rapport à Jeanne Fairfax, et celle-là ne lui laissait aucun doute. Elle reconnaissait d'une manière non équivoque et de la meilleure foi du monde que Jeanne touchait du piano et chantait infiniment mieux qu'elle. Elle déplora amèrement d'avoir perdu son temps dans son enfance. Et elle se mit à son piano, où elle s'exerça avec la plus grande application pendant 1 heure et demie. Elle fut interrompue par l'arrivée d'Henriette, et si ses louanges avaient pu satisfaire Emma, elle eut eu sujet d'être extrêmement contente. « Oh, si je pouvais jouer aussi bien que vous, ou Mademoiselle Fairfax !»« Ne nous mettez pas dans la même classe, Henriette. Mes talents en musique ne ressemblent pas plus aux siens qu'une lampe ne ressemble au soleil. » « Ah, mon Dieu, je crois que vous jouez mieux qu'elle, ou du moins que vous jouez aussi bien. Je vous assure que j'aime mieux vous entendre jouer qu'elle. Tout le monde hier s'extasiait à vous entendre. » « Les connaisseurs, ma chère Henriette, voient bien la différence. La vérité est que je touche du piano assez pour qu'on m'applaudisse, mais Jeanne Fairfax m'est infiniment supérieure. Eh bien, je croirai toujours que vous jouez aussi bien qu'elle, ou que s'il y a quelque différence, personne ne pourrait s'en apercevoir. M. Cole a beaucoup vanté votre bon goût, M. Frank Churchill en a parlé de même et a dit qu'il préférait le goût à l'exécution. Ah, Jeanne Fairfax possède l'un et l'autre. En êtes-vous sûr? J'ai bien vu qu'elle avait une excellente exécution, mais je ne me suis pas aperçu qu'elle eut du goût, personne n'en a parlé. Et je hais les chansons italiennes. On n'entend pas un mot de ce qu'elle chante. Outre cela, si elle joue si bien, il n'y a rien de surprenant, elle y est obligée, car elle doit enseigner aux autres ce qu'elle sait. Les demoiselles Cox se demandaient hier si elle devait entrer dans une grande famille. Comment avez-vous trouvé les demoiselles Cox? Comme à l'ordinaire, très grossières. Elles m'ont dit quelque chose, ajouta Henriette en hésitant, mais rien de grande conséquence. Emma fut obligée de lui demander ce que c'était, quoiqu'elle craignît de voir reparaître M. Elton sur la scène. « Elles m'ont dit que M. Martin a dîné avec elle samedi dernier. »« Ah ! » !»« Il était venu chez leur père pour quelques affaires et fut invité à dîner. »« Ah ! » !»« Elles m'ont beaucoup parlé de lui, surtout Mademoiselle Anne Cox. J'ignore leur dessein, mais elles m'ont demandé si j'avais l'intention d'aller passer quelque temps à Mill Farm l'été prochain. » Leur intention provenait d'une impertinente curiosité, telle qu'il appartient à une Anne Cox et à sa sœur d'en avoir. Anne Cox dit que, pendant le dîner, il avait été très agréable, il était à côté d'elle à table. Mademoiselle Nash dit qu'elle pense que l'une et l'autre des demoiselles Cox s'estimeraient très heureuses de l'épouser. Je n'ai pas de peine à le croire, car sans exception, ce sont les filles les plus vulgaires et les plus communes qu'il y ait à Highbury. Henriette avait des emplettes à faire chez Ford. Emma crut qu'il était prudent de l'y accompagner. Il était possible qu'elle eût une autre rencontre avec Robert Martin, ce qui, dans l'état où elle se trouvait, pouvait devenir dangereux. Fin du second volume.